Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre quatrième rencontre autour des enfants, non pas l'enfant au singulier, mais les enfants dans leur diversité, aujourd'hui autour d'un portrait de famille, mais une famille nombreuse. Matière à penser autour des enfants. Ce soir, notre deuxième discussion avec l'aide de la sociologie et plus précisément aujourd'hui d'un sociologue, Stéphane Beau, professeur de sociologie à Poitiers et auteur de La France des Belloumis, portrait de famille 1977-2017. Bonsoir Stéphane Beau.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être venu parler de la France des Belloumis dans cette série sur les enfants. Je ne sais pas ce que vous inspire ou vous inspirera l'intitulé de la série, la place de ce livre, La France des Belloumis dans cette série sur les enfants. Mais déjà, il y a une première chose moi qui m'a frappé dans votre livre, un sociologue qui veut étudier une famille. Ça pourrait être un projet qui décidé dans le cadre d'un projet de recherche, etc. Quelqu'un qui prend une famille et des parents et des enfants comme objet. Dans votre cas, ce que vous racontez au début, et c'est à mon avis très très important, mais vous allez me dire, finalement ce sont elles d'abord, certaines des enfants de la famille Belloumis qui sont venues vers vous presque avec une demande, Stéphane Beau.
Oui, exactement. En fait, c'est une demande, d'ailleurs, si vous l'avez dit, au féminin. Ce sont des familles de 8 enfants.
Ouais.
Et les personnes qui sont venues, les enfants Belloumis qui sont venus me voir, ce sont d'abord les filles, puisque les deux, ce sont il y a 8 enfants, 5 filles et 3 garçons.
Ouais.
Et les deux filles aînées étaient venues m'écouter avec une autre sœur dans une conférence publique pour les 30 ans de mission locale. Et à la fin du topo, de la discussion, du débat, ce sont elles qui sont venues vers moi, et notamment la fille aînée qui s'appelle, que j'appelle Samira, pour me remercier de ce que j'avais dit, et me remercier tout simplement parce que j'avais essayé de faire mon métier de sociologue en racontant la diversité des parcours des enfants d'immigrés, notamment maghrébins.
Ouais.
Et c'était reconnu dans cette diversité, ça faisait écho à beaucoup de choses qu'elle avait vécues dans sa famille, elle avait voulu entamer une discussion, et puis comme on avait eu un peu de temps, il faisait beau à ce moment-là, une soirée de juin, on a parlé une heure quasiment avec les trois sœurs.
Mais alors qu'est-ce qu'il y avait d'après vous dans le fait de venir vers vous comme ça? Quelle était la demande? Est-ce que il y avait l'idée de se reconnaître en partie dans les enfants d'immigrés, qu'est-ce qu'ils cherchaient à se dire, à se comprendre dans cette demande? Est-ce qu'il y avait une part de réflexivité? Qui suis-je? Qui sommes-nous?
Absolument.
Le sociologue peut-il m'aider à répondre à cette question? Est-ce que vous avez senti tout ça immédiatement?
J'ai senti ça, oui, je pense assez immédiatement. Parce que là aussi, il faut insister sur le contexte. C'était le 6 juin 2012 et on est quelques mois après les assassinats de Mohamed Merah à Toulouse. Et il se trouve notamment que la fille aînée, Samira, avait été extrêmement meurtrie, blessée par ces attentats qu'elle trouvait absolument abominables. Il se trouve qu'elle s'appelle Samira Belloumi et que lui s'appelle Mohamed Merah et que bien sûr les effets d'amalgame étaient là visibles. Mmh. Et donc elle en a même été malade, elle a eu 2 jours d'arrêt de maladie tellement elle a été percutée violemment par cette histoire qu'elle a trouvée terrible, abominable, parce qu'elle voyait bien tout de suite les effets que cela allait avoir en masse. Donc en fait, à travers ça, pour répondre à votre question, Frédéric Worms, là, c'est d'une certaine manière une volonté de réhabilitation. Nous ne sommes pas ce qu'on croit. On va vous raconter qui nous sommes véritablement, à l'écart ou à la différence de ce qui est souvent rabattu médiatiquement. Voilà, donc l'idée, assez vite, c'était l'idée qui s'est imposée, qui affecte le livre, l'enquête a pu se faire, c'était raconter l'histoire ordinaire.
Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, là aussi, Stéphane Beau, c'est-à-dire, on pourrait dire, là, dans cette semaine, j'ai eu 2 discussions avec des psychologues, des psychanalystes, on pourrait dire, elle aurait pu aller voir un psychanalyste, ces événements ont aussi des effets psychiques, et là, ce nous, au fond, ce nous qu'elle emploie en venant vous parler, c'est aussi un nous qui, d'emblée, est sociologique finalement. Et qui, le fait qu'elle vienne parler, et d'ailleurs, d'abord venir vous écouter de la conférence d'un sociologue, et puis après venir lui parler, c'est-à-dire qu'il y avait une conscience du social dans la question finalement.
Absolument, et la question du social, elle est aussi dans leur métier respectif, puisque les trois sœurs qu'ils ont dû m'écouter, l'une est assistante sociale, la petite dernière, Amel, l'autre est responsable, chef de projet dans une mission locale, en Seine-Saint-Denis, et la troisième, Samira, est infirmière chargée de formation, dans un institut de formation. Donc toutes les trois ont affaire au social et à la santé.
Ça, c'est et déjà, donc, très, c'est déjà très fort. Déjà, vous distinguez dans le livre, enfin, vous montrez qu'il y a des parcours différents entre, disons, le groupe des garçons et le groupe des filles. Mais en plus, dans le groupe des filles qui réussissent scolairement et socialement, Stéphane Beau, vous montrez aussi qu'elles vont dans ces métiers-là. Au fond, pour vous, c'est...
Leur jeu est pris entièrement dans le nous. Il y a à la fois le nous de la famille, mais le nous de la communauté maghrébine, algérienne, et puis après, il y a le nous du travail. Donc effectivement, elles n'ont pas l'idée, j'imagine, et pas forcément le temps d'aller voir un psy, mais c'est vrai que le livre a fonctionné un peu comme une psychanalyse sociale qui l'a produit.
Ah, donc vous opposez pas forcément les deux démarches?
Non, je pense que
il y a... La sociologie, la psychanalyse, pour vous, ça se recoupe?
Il y a un des très beaux textes du grand sociologue algérien Sayad, Abdelmalek Sayad, qui dit, et Bourdieu l'a redit aussi après, que on peut considérer qu'un des aspects, moi, qui m'intéresse dans la sociologie, c'est effectivement essayer de faire la psychanalyse sociale des groupes sociaux et considérer là, en l'occurrence, travailler sur, voilà, 40 ans de l'histoire d'une famille algérienne, c'est essayer de comprendre dans les trajets, les parcours des uns et des autres, la manière dont justement le social intériorisé façonne leur parcours. Et c'était frappant de voir, bien sûr, que la différence entre les garçons et les filles, à ce niveau-là, est très
forte. Oui, parce que là, vous dites, il faut déjà une certaine capacité pour aller voir un psychanalyste, mais là, justement, c'est encore, peut-être encore plus élevé comme exigence d'aller s'adresser à un sociologue. Faut en être capable, faut être capable de cette réflexivité.
Pour comprendre l'enquête, il faut comprendre qu'il y a eu une sorte de chef d'enquête dans cette enquête. C'est-à-dire, moi, je suis le sociologue, mais c'est surtout la fille aînée, Samira,
ça vient
qui a
justement
porté l'enquête jusqu'au bout. Et elle a quand même, malgré tout, au bout de quelques années, elle a fait une démarche un peu vers un psy, qui lui a dit finalement,
oui, vous
avez embarqué toute la famille dans cette histoire. Et je pense que c'est profondément vrai. Donc effectivement, il a fallu gérer aussi, je pense que c'est aussi un point important. Les enquêtes sociologiques sur les familles sont relativement rares parce que, comme on le sait très bien, la famille est pleine de secrets.
La famille, c'est les secrets, les querelles,
les querelles, les familles. Donc, finalement, c'est un terrain très piégé pour les sociologues. Et donc là, j'ai eu cette chance de pouvoir m'appuyer sur Samira, la fille aînée, à qui le livre aussi en partie dédié, puisque elle a permis de lever tous les obstacles, les uns après les autres, en disant, et l'obstacle, quoi, ce qui a permis aussi de lever l'obstacle, c'est que tout d'un coup, quand je disais, c'était une sorte de formule magique, mon sésame d'enquête, c'est-à-dire, je vais raconter une histoire qu'on ne raconte jamais, celle d'une famille algérienne ordinaire, celle qui n'est pas justement à l'opposé des Meira et Kouachi et compagnie. Et ça, je pense que ça a beaucoup marqué parce que tous les enfants, et ça c'est très important, et quand je fais des conférences, j'ai passé une partie de l'année dans les lycées, parler de ce livre, et c'est très frappant de voir que beaucoup de lycéens m'ont dit la même chose. On s'est senti reconnus, vous nous parlez de nous, et je suis allé une fois invité par une professeure agrégée d'allemand en Cagne au lycée du Rincy, et je la remercie ici, et à la fin, il y a des jeunes qui ont dit, c'était bien, il a parlé de nous, mais pas comme à la télé.
Ah.
Mais pas comme à la télé.
Il y a beaucoup de choses là-dedans.
Oui.
Il y a d'abord il a parlé de nous, alors attardons-nous un peu là-dessus, après sur pas comme à la télé.
Parler de nous, les enfants d'immigrés.
Mais nous, les enfants d'immigrés, Stéphane Beau, mais alors justement, de qui sommes-nous les enfants? Finalement, c'est une des questions qu'on se pose en lisant votre livre, c'est-à-dire, on est les enfants de nos parents, et finalement, il y a une définition de la famille par la relation parent-enfant, et puis on est aussi qu'est-ce que ça veut dire être enfant d'immigrés? C'est-à-dire, dans le fait d'être enfant de ses parents, il y a aussi beaucoup de choses. Vous dites, là, par exemple, la famille Belloumi, et aussitôt vous ouvrez une parenthèse avec quatre mots entre guillemets, je vous cite, hein. Les premiers éléments d'observation et d'information collectés ce soir-là sur les caractéristiques principales de la famille Belloumi, s'ouvre une parenthèse, immigrée entre guillemets, algérienne entre guillemets, ouvrière entre guillemets, nombreuse entre guillemets, etc. Alors de quoi sommes-nous les enfants, Stéphane?
Eh bien, justement, je me rappelais plus de cette longue parenthèse, mais je pense qu'elle est juste au sens où
elle
permet de dire finalement que nous sommes les enfants de toute cette pluralité d'appartenance,
d'adjectifs,
à la fois d'adjectifs qui sont appartenance, appartenance sociale, un père ouvrier, appartenance nationale avec une famille algérienne, une famille liée à l'Algérie, puis une famille nombreuse. Et ce qui est intéressant, bien sûr, ce que j'ai pas assez dit dans le livre, c'est que là aussi, la place, comme on le sait, dans les familles des grands-parents est toujours importante.
Oui,
mais là, finalement, la place des grands-parents, elle n'apparaît que par la fille aînée, parce qu'elle a vécu un peu en petit enfant en Algérie, au contact
parce qu'il y a l'exil, l'immigration.
Parce qu'il y a l'exil, donc les grands-parents sont coupés très largement des autres frères et sœurs, mais la sœur aînée, Samira, elle a un rapport extrêmement fort à l'Algérie, du fait même de la présence de ses grands-parents.
Oui, vous parlez bien sûr, d'ailleurs c'est pour ça aussi sans doute vous mettez tous ces mots entre guillemets, chaque mot doit pas être surdéterminé, algérienne ne veut pas dire ici le contraire de française, immigrée ne veut pas dire le contraire de local, de la région aussi où elles ont été élevées, dans le sud de la France, puis certaines viennent à Paris, certaines autres non. Donc tous ces mots désignent aussi des histoires singulières. Au fond, c'est pas des catégories. La sociologie des enfants, comme dit Martine Cour dans son petit livre qui s'intitule de cette façon, c'est pas une façon d'enfermer dans des catégories.
Non, justement, c'est ça qui est intéressant dans la sociologie, si on fait bien le travail, si on prend le temps d'écouter les gens. Prendre le temps d'écouter les gens. Il y a un livre de Michel Pialo qui est sorti, qui s'appelle Le temps d'écouter. Je pense que c'est une belle expression. Le temps d'écouter les gens, c'est de voir ce que Elias dit dans un très beau texte sur Mozart. Je est un processus.
Sociologie d'un génie pour Mozart. Alors, voilà, donc là, tout est sociologisable, mais ça ne nie pas l'individualité, le processus.
Sûr. Parce que ce qui est intéressant, c'est la manière dont, justement, dans le livre, j'essaie de mettre en relief ce qui m'a tout de suite frappé en voyant physiquement les trois sœurs et ensuite toute la famille. C'est que entre les sœurs aînées et les sœurs cadettes, il y a 10-15 ans d'écart au niveau biologique, mais il y a un écart aussi très, très important lié au mode de génération des générations. Les deux sœurs aînées ont grandi dans une France, je dirais pas pacifiée, mais de la France de la fin des Trente Glorieuses, avec un mouvement ouvrier assez puissant, avec le mouvement Beur en 83 qui a joué un rôle, à mon avis, majeur dans la prise de parole publique de ces enfants d'immigrés ou de ces descendants d'immigrés. Et puis, elles ont bénéficié, d'une certaine manière, de tout ce travail politique et militant, alors que les sœurs cadettes qui ont 15 ans de moins, elles ont grandi dans des cités plus dégradées, avec des conditions de politisation différentes.
Et les frères dont vous parlez aussi beaucoup dans le livre, il y a même le groupe des filles et le groupe des garçons qui structurent un peu le livre. Finalement, les frères, c'est encore autre chose. Et à la fin du livre, on s'aperçoit que, bien loin qu'il y ait un progrès, je ne sais même pas s'il faut parler de l'intégration, mais un progrès en tout cas des conditions sociales qui permettent à ces familles d'exister, ça s'est plutôt dégradé, Stéphane. Le contraire du livre, c'est que c'est un révélateur aussi. Une famille aussi nombreuse, avec des enfances étalées dans le temps, c'est un prisme.
Oui, c'est un prisme, mais surtout, ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'en fait, l'enquête a duré de 2012 à 2017, et en fait, l'enquête a été...
Dans le temps même de l'enquête, il y a eu des changements majeurs.
Il y a eu les attentats de 2015-2016. Et ça, je ne l'ai pas mis au centre du livre, mais il y a tout un chapitre consacré à ces attentats, pour comprendre justement comment les choses sont un peu dégradées par la suite. Je pense qu'effectivement, le regard de la société française sur ce groupe social des enfants d'immigrés algériens, bien sûr, a fortement changé après ces attentats. C'est quand même très important de dire ça. Donc, dans leurs petits des rapports au travail, un tas de... dans les rapports... tout ce qu'on peut sentir comme ça dans les rapports interindividuels, on sent qu'il y a, ils se sentent, Samira le dit à la fin, il y avait une bienveillance, il y avait une générosité qu'elle a connue enfant et qu'elle ne voit plus aujourd'hui parce que les relations se tendent, pas uniquement entre enfants immigrés et non immigrés, mais dans la société française, dans les rapports entre groupes, ça se tend.
Pour vous, Stéphane Beau, qu'est-ce qui définit exactement une famille ? Il y a donc tous ces paramètres, on peut lui mettre des adjectifs. Famille, alors je reprends, immigrée, algérienne, ouvrière, nombreuse, et chaque famille pourrait décliner comme ça. Mais est-ce qu'il y a une définition pour un sociologue de ce qui fait une famille et aussi de ce que finalement la société offre comme condition pour qu'une famille puisse exister dans de bonnes conditions. Est-ce que c'est un peu normatif aussi la sociologie de la famille ? Quand on fait un portrait de famille, on dit là ça va, là ça va pas.
On essaie de pas dire ça, mais en même temps, essaie de montrer, il me semble, deux choses essentielles. D'une part, qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on appelle la socialisation familiale, dans les rapports entre parents et enfants, qui peuvent être des rapports aussi entre grands-parents et petits-enfants.
C'est quand même déjà ça pour,
me semble-t-il,
dans la question de la définition. Voilà, familial, c'est quand même la relation parent-enfant, finalement.
Oui, c'est quand même vertical au départ. Et après, tout l'intérêt, il me semble, d'une sociologie élargie de la famille, c'est de comprendre que il y a ce qui se passe dans la famille, puis il y a tout ce qui se passe à l'extérieur et la manière dont justement l'extérieur construit, consolide ou non les relations qui sont construites dans la famille. On voit bien que par exemple dans cette famille-là, et ça me semble politiquement important, dans ces quartiers HLM, parce que cette famille a grandi dans un quartier HLM, dans une cité, on disait pas une cité à l'époque, on disait un quartier.
Justement, ces mots ont changé.
Voilà,
aussi.
Ces mots ont changé. Ben il y a un support. Il y a ce que Castel appelle la protection rapprochée du quartier. Il se trouve que c'est une ville communiste, une ville ouvrière, où il y a des colonies de vacances, des centres culturels, il y a des réduction pour le cinéma, il y a un encadrement culturel de la ville communiste qui fait que, par exemple, la seconde sœur, Leïla, va dans l'entretien que je fais avec elle, le premier, va plus me parler de la ville communiste, de la fête locale du Parti communiste, de la fête de l'humanité, que quasiment de ses parents. Parce qu'elle s'est construite à l'opposé de sa sœur, là aussi c'est intéressant, elle s'est construite en opposition avec sa sœur aînée, et elle, comme elle dit, ce qui est intéressant, moi je suis une fille de l'extérieur.
Elle s'est construite, donc l'une s'est construite plutôt en revendiquant sa famille de l'intérieur, et l'autre plutôt en y a, dans toute famille, il y a du dedans et du dehors, ouais. Stéphane Beau, socialement.
Mais parce qu'en fait, la fille aînée, elle est assignée à la maison. Elle a une phrase à la fois très belle et terrible pour définir son existence de 7 ans à 17 ans quand elle était en France. Et pour moi, ma vie entre 7 ans et 19 ans quand elle a le bac, c'est école-maison. Il n'y a pas d'espace tiers. Alors que la deuxième, qui a 3 ans de moins, Leïla, me dit, j'ai vu comment ma sœur a évolué, je m'en suis méfié, j'ai trouvé toutes les petites portes de sortie. Et justement, par rapport à ces questions de catégorisation des groupes, elle dit, j'explique toujours ça à mes étudiants, regardez comme c'est intéressant, cette fille qui, à 7 ans, va au catéchisme. Elle va au caté avec ses copines pour être avec sa mère.
C'est une issue.
C'est une issue, c'est une échappatoire légale, légitime. La mère accepte.
Mais alors justement, Stéphane Beau, la famille, on en parle beaucoup aujourd'hui en disant, voilà, il faut que les rôles soient bien établis. Il y a les questions de filiation juridique. Il y a aussi les questions d'engendrement biologique. On oublie souvent cette dimension sociale. D'abord, c'est deux dimensions sociales. La socialisation intrafamiliale, ce qui permet à des parents et à des enfants de se connaître, de se différencier mutuellement, et puis ces cadres sociaux qui permettent ou non de revendiquer sa famille, aussi d'en sortir. En sortir, c'est pas forcément la nier d'ailleurs.
Bien sûr, c'est fondamental de prendre en considération ces deux plans. Et aujourd'hui, moi je m'intéresse un peu quand même, j'ai travaillé un peu sur l'école, sur les scolarités, et quand on écoute de près ce que peuvent dire les enseignants, notamment du primaire, c'est à quel point justement, plus que jamais, on a besoin d'une institution scolaire qui tienne pour pouvoir compenser ce qu'on voit de plus en plus apparaître dans les difficultés sociales et matérielles des familles, notamment les familles monoparentales. On voit bien que si à côté, il n'y a pas des institutions scolaires, sportives, qui permettent de soutenir cette fameuse expression de Castel, la protection rapprochée, je pense que c'est une question, c'est fondamental.
Alors Robert Castel, qui avait travaillé sur la manière dont il y a eu des institutions qui ont permis aux individus, en sortant des communautés traditionnelles, d'appartenir à des nouveaux modes de socialisation, et qui a analysé leur fragilisation, aussi bien le salariat qui s'est fragilisé en précarité, et un certain nombre de cadres. Vous partagez son diagnostic?
Oui, absolument.
Il y a une fragilisation aujourd'hui de la socialisation qui nous permet d'exister comme individus?
C'est-à-dire tous les sociologues, il me semble que les résultats des sociologues sont convergents, avec bien sûr à savoir que la société s'est polarisée socialement, mais aussi spatialement. C'est-à-dire que l'enquête
une sorte de ségrégation spatiale.
Voilà, le fait que moi j'enquête dans une famille qui habitait dans un quartier HLM, et on voit très bien là aussi la différence entre garçons et les filles. Il y a un très bel exemple dans le livre, c'est quand la sœur aînée vient trouve un travail à Paris, et son appartement à Paris, qui se trouve dans le quartier latin, parce que la clinique privée qui avait besoin d'elle lui a loué un appartement pas trop cher dans le quartier latin, ça sera la tête de pont des autres frères et sœurs. Et quand les frères dans le quartier souffrent trop de la pression sociale, parce qu'il y a une pression sociale dans le quartier, et qu'ils ont envie de respirer, de ne pas être tout le temps sujet à ces micro-conflits dans le quartier, comme ils disent, on allait chez notre sœur. C'était notre bol d'air.
Mais alors, en quoi est-ce que ça confirme le diagnostic de fragilisation ou de désaffiliation des individus? En quoi? C'est-à-dire qu'ils se sentent enfermés dans leur...
Voilà.
Au lieu de la socialisation, ils sont enfermés dans un piège social, finalement.
Oui, dans des conditions de vie, des conditions de... Ouais, ce qu'on oublie toujours, c'est qu'en fait, de dire, c'est que... Pour les garçons, parce que c'est souvent dans le livre, j'ai un peu travaillé sur le cas des garçons.
On va y venir.
Les garçons, ils sont pris dans la logique.
La différence entre garçons et filles,
la logique très importante pas forcément des bandes, mais de la socialisation masculine. Et c'est très difficile pour eux d'y échapper. Et donc, de temps en temps, quand c'est trop violent, ils ont besoin. Les filles ont, grâce à leur appartement à Paris, c'est un support matériel pour essayer d'échapper à la pression du groupe. Dans la cité.
Alors avant de venir, Stéphane Beau, au résultat de votre enquête, cette longue enquête, conversation avec les unes et les uns et les autres dans ce livre, encore peut-être un mot général. Effectivement, vous avez évoqué l'école, le sport, vous avez aussi travaillé sur le football, sur l'usine, et toujours un peu quand même sur disons, des jeunes, finalement. Est-ce que pour vous, travailler sur les enfants, quel est l'enjeu? C'est l'enfance comme révélateur des processus de socialisation, puisque c'est pas encore joué. Quel est pour vous l'enjeu de l'enfance comme objet un peu particulier, malgré tout, qui vous a quand même beaucoup concerné dans vos livres?
Oui, bon, en fait, au départ, je racontais ça. Au départ, c'est quand je fais ma thèse à Sochaux-Montbéliard et je travaille avec Michel Pialou, qui est plus âgé que moi, qui lui a fait un gros travail que j'ai beaucoup admiré sur un OS, Christian Corouge. Et donc, quand j'ai fait cette enquête,
OS, même aujourd'hui, tout le monde ne comprendra pas.
Oui, spécialisé, pardon. Et quand j'ai fait ma thèse, en fait, on s'est un peu, on a fait beaucoup de choses en commun, ouais. D'entretiens en commun avec les parents, et puis petit à petit, on s'est un peu réparti le travail. Michel Pialou a travaillé davantage sur les ouvriers qualifiés, donc qualifié, le syndicalise. Mmh. Moi, je l'accompagnais de temps en temps, les entretiens ensemble, c'était super. Mais parfois, je me suis dit, finalement, il faut aussi que je profite, entre guillemets, de ma relative jeunesse de l'époque pour aller enquêter. Ce qui m'intéressait, en fait, fondamentalement, pour répondre à votre question, c'est la question que Bourdieu appelle la question des modes de reproduction des groupes sociaux. Comment ça se passe, cette sphère-là? Et comme j'ai enquêté en plein moment, justement, de déstructuration du monde ouvrier, c'était particulièrement intéressant parce qu'on voyait,
j'ai une transmission qui se faisait mal. Voilà, finalement, de parents ouvriers à enfants, qu'est-ce qui se transmet,
surtout,
qu'est-ce qui
comment l'école, comment la poursuite d'études continuer, un chapitre d'un livre, comment il faut continuer, les parents disent, il faut continuer à l'école, avoir du bagage scolaire, mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ça divisait des contradictions énormes dans les familles entre les parents qui disaient aux enfants, il faut continuer. Les parents qui n'avaient pas les armes, notamment culturelles et scolaires, pour donner ce capital scolaire qui permet de bien réussir à l'école, et puis les enfants qui étaient au lycée, comme j'ai dit, un peu par effraction. Donc c'est ça qui m'intéresse.
Travailler sur les différences de génération, sur l'enfance, au rapport aux parents, sur la jeunesse, c'est aussi faire apparaître des contradictions.
Des contradictions terribles.
Sociales que seul ce sujet-là, les enfants, fait ressortir finalement.
Ben absolument. Et c'est ça qui m'intéressait justement. Parce que je trouvais que c'était, ce qui est intéressant, il me semble, quand on fait de la sociologie, c'est saisir ces contradictions sociales et qui peuvent s'exprimer ou non, qui sont souvent latentes, non dites. Je donnerai toujours un exemple comme ça qui m'avait frappé le jour d'un entretien avec un enfant d'ouvrier qui habitait une cité HLM. Sa mère était là, fille d'immigrés polonais venue en région Montbéliard, et le fils traînait sa misère dans son canapé et voulait pas parler au sociologue. Et la mère la disputait, et donc il y avait un conflit énorme entre la mère qui disait, mais t'as la chance d'avoir un sociologue, parle-lui de l'école, et lui il supportait pas cette injonction maternelle
d'être devenu un objet finalement. Absolument. Sous votre regard, Stéphane Beau, même si justement vous faites parler les sujets à qui vous parlez, notamment dans La France des Belloumi, ce livre dont on parle maintenant, et on va revenir sur les personnes, j'allais même pas dire les personnages qui apparaissent dans votre livre, et finalement la musique que vous avez choisie pour jalonner la conversation, c'est un peu pour leur faire écho, Stéphane Beau.
Oui.
On va l'entendre.
Allez,
Matière à penser, Frédéric Borns.
Matière à penser, cette semaine autour des enfants au pluriel, et ce soir autour des enfants d'une famille bien précise dont Stéphane Beau fait le portrait de groupe, le portrait de famille, La France des Belloumi. Et Stéphane Beau, pour faire écho aux Belloumi, là vous nous proposez une chanson, une musique de Rachita. En quoi est-ce que ça fait écho au destin des 8 enfants de la famille Belloumi dans la France des années 70 à aujourd'hui finalement? C'est la musique que l'on vient d'entendre.
parce que Rachida, c'est le premier rocker arabe, comme il a fait exprès de chanter en arabe cette chanson Zoubida, et il fait partie de cette génération qu'on appelait Beur, et ce mot à l'époque n'était pas tabou ni mauvais entre guillemets, et je pense que ce genre de musique, là on est en plein dans l'hybridation culturelle. Il se trouve que Rachida est mort l'année dernière, assez jeune, et je trouve que c'est un chanteur emblématique, et notamment qui chante, qui proteste contre la domination que subissent les femmes.
Alors on va parler justement de tout ce que vous montrez dans votre livre. On a parlé de la question de l'enfance pour le sociologue et à travers la sociologie en général, mais votre livre évidemment n'est pas un livre de théorie générale sur les enfants. C'est une famille bien précise, il y a cette dimension de l'immigration, de la place d'une famille algérienne en France, de cette tension entre les garçons et les filles. Dans votre livre qui est polyphonique, au fond chaque cas permet de faire ressortir une dimension. Quelle est là quand même peut-être pour vous la dimension, est-ce qu'il y a une dimension plus importante que les autres? Est-ce qu'il y a une dimension qui domine dans le destin de ces années-là, en tout cas, de la famille Belloumi en France? La France des Belloumi, je rappelle le très fort titre du livre.
La double dimension, c'est à la fois la scolaire et la dimension du genre. La dimension scolaire.
Avant même la dimension, disons, culturelle, justement.
Oui, moi je pense que justement, là c'est un débat théorique qui fait rage, si l'on peut dire, de la sociologie française. Donc moi je suis partisan, si on peut dire. En tout cas, je défends une conception de la sociologie qui essaye de mettre en avant, en relief, les déterminants sociaux les plus importants des destins des individus. Donc là, en l'occurrence, c'est un cas d'école, si on peut dire, cette famille, parce que, je répète, c'est une famille avec un père qui, j'ai oublié de dire, mais le père, il est ouvrier non qualifié, il travaille comme manœuvre dans le bâtiment. Malheureusement, il est très vite malade, au bout de quelques années, il tombe malade parce qu'il a des pneumonies à répétition, donc il obtient ce qu'on appelle un statut d'invalide, Cotorep, dès 78, donc ils vont vivre dans une famille avec un père qui est ouvrier en longue maladie, si l'on peut dire. Et donc, les parents, le père notamment, n'a pas pu faire d'études, puisqu'il est fils de petits pays, très pauvres paysans, les montagnes ou Mascara en Algérie. La mère est allée jusqu'en quatrième. Globalement, la mère parle français, le père ne parle pas français.
Oui, vous racontez très bien même comment sa difficulté en français dans le métro quand il arrive devient presque un récit héroïque pour ses enfants.
C'est un récit héroïque, parce que finalement, ce qu'il a pu raconter à ses enfants, c'est qu'est-ce que ça veut dire être un enfant d'immigré, un immigré venant en France, ne parlant pas le français, c'est qu'on se perd dans le métro, et c'est parce qu'il s'est perdu dans le métro qu'il n'a pas voulu rester à Paris et qu'il a réussi à s'implanter dans cette petite ville de province à Sardan, parce qu'il y a une des sœurs de sa mère qui habite là, parce que c'est aussi ça l'immigration, de l'immigration justement au sens immigration de prolétaire. Et donc c'est important de dire qu'effectivement, pour revenir sur l'école, la question qu'on peut se poser sociologiquement, c'est que à partir des caractéristiques sociales de monsieur et madame Belloumi, le destin scolaire des enfants Belloumi n'aurait pas dû être ce qu'il a été. Or, il se trouve qu'effectivement, Bourdieu et Passeron ont employé ce mot de miraculé scolaire, les deux sœurs aînées, elles ont des destins de miraculé scolaire. Mais le travail du sociologue, c'est de comprendre pourquoi, à partir de capital scolaire, culturel des parents, qui n'est pas le plus haut, loin de là, comment se fait-il qu'elles ont réussi l'école? Parce que j'explique ça à mes étudiants, ils ont parfois du mal à l'entendre, mais dans ces générations-là, obtenir un bac B et un bac plus 3 pour des enfants d'immigrés non qualifiés, c'est énorme.
Oui, le bac est encore
bien sûr,
un 6%. Diplôme.
Sur les archives, j'ai retrouvé une archive, et Antoine Prost m'a expliqué que c'était lié au recteur de l'époque qui avait fait une enquête mentionnant l'origine nationale. Mm-hmm. J'ai retrouvé des archives montrant que pour la génération des deux sœurs aînées, il y avait 6% d'enfants d'immigrés qui obtenaient le bac.
Oui. Donc, alors, justement, Stéphane,
donc, l'école, c'est fondamental.
En fait, vous relativisez beaucoup l'aspect d'enfants d'immigrés. On parlait de ce nous, enfants d'immigrés. Vous dites aussi dans le livre que finalement, le rapport à l'école vient du discours des parents, beaucoup fascinés par l'école, justement parce que là, on a été privé, l'autre a commencé à y goûter. Et que pour vous, finalement, il n'y a pas de différence de ce point de vue. Le rapport à l'école, qui est un enjeu de socialisation fondamental, on peut le retrouver dans des familles d'ouvriers, vous dites là française entre guillemets aussi, mais c'est finalement un déterminant transculturel, on pourrait dire.
Je dirais même plus que ça, en fait, et ça c'est d'autres travaux, notamment les travaux de Marco Roberti en Seine-Saint-Denis l'ont bien montré, c'est qu'en fait, pour les parents immigrés, notamment maghrébins, on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'inflation des aspirations scolaires.
C'est surinvesti finalement.
Surinvesti, parce qu'en fait l'idée c'est que principal, Sayad l'avait déjà montré, c'est que nous sommes venus en France, ils sont venus en France, et ils vont dire à leurs enfants, pour vous assurer une meilleure réussite sociale et scolaire que vous auriez eu si vous étiez resté en Algérie ou au Maroc. Et donc, il y a une sorte de... D'ailleurs, c'est parfois dramatique, parce que les parents surinvestissent sur l'école, et il faut pouvoir être à la hauteur de cet investissement. Et quand je présentais ce livre, j'ai fait dans des écoles, justement, dans le lycée parisien, ouais. Je me rappelle, dans les petits comptes rendus que je demandais à la fin aux professeurs, il y avait toujours des étudiants, des filles et des garçons qui disaient, oui, sur les parents, c'était très bien.
Parce que c'est, voilà, on se reconnaissait l'injonction familiale,
mais qui peut être terrible si on n'est pas à la hauteur. Donc, on pourrait dire que le paradoxe, c'est que justement, et ça, j'avais montré dans ma thèse aussi, c'est que les familles ouvrières françaises, elles sont assises sur une connaissance scolaire, malgré tout. Il existe des CAP, il vaut mieux des bonnes études courtes, CAP ou bac pro aujourd'hui, que rêver en ayant un bac plus 4 de sociologie.
Alors cette projection scolaire qui est aussi une projection sociale, Stéphane Beau, il y a aussi une dimension politique sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Finalement, elle permet d'échapper un autre déterminant, justement celle d'être enfant d'immigré ou la dimension religieuse aussi, qui l'aurait renvoyé plus tard politiquement par la France des années 2010, des années 2000 et 2010. Mais entre cet aspect social et cet aspect politique, quand même une des grandes leçons de votre livre, qui le structure même, et c'est la découverte que vous faites aussi dans cette famille, vous en aviez l'intuition, hein, puisque c'est même ça qui vous a amené vers eux, c'est la différence fille-garçon. Comment est-ce qu'on peut expliquer c'est vraiment que ça se vérifie de façon si nette, ces garçons très fragilisés socialement et scolairement, et ces jeunes filles qui deviennent des jeunes femmes, qui construisent des vies, y compris scolaires, même réussies, disons, entre guillemets, en tout cas des parcours socialement réussis dans le même temps.
Je vais répondre en deux temps. D'abord, comme j'imagine que quand on fait un livre comme ça sur une famille, la question qu'on se pose toujours, c'est une famille, ça veut rien dire, c'est quoi, c'est ce délire de sociologue, ça prouve rien, c'est un livre, c'est une monographie. Mais en fait, ce qui est intéressant,
c'est qu'ils sont 8, vous avez la chance quand même qu'ils sont 8.
Mais on peut asseoir la monographie sur des statistiques. Et on a en France la chance d'avoir un outil statistique formidable qui s'appelle le panel de la DEP. C'est au ministère, on suit...
Direction des études et prospectives. Ouais.
On suit des élèves de la 6e jusqu'à la terminale, 8000 à 9000 élèves sur 7-8 ans. Donc on a des parcours scolaires extrêmement détaillés. Et dans des enquêtes de la DEP, ceux qui étaient entrés en 6e en 95, on s'aperçoit que même dans l'entrée en 6e, il y a un écart de 15 points.
Il y a déjà un décrochage des garçons.
Dès l'entrée en 6e, c'est-à-dire que en fait ils ont 15 points, ils sont 15 fois 15 points en plus de retard scolaire des garçons par rapport aux filles. C'est-à-dire qu'en fait les garçons dès l'entrée en 6e sont déjà beaucoup plus en retard scolaire par rapport aux filles. C'est-à-dire qu'en fait il faut comprendre ce qui se passe dans...
Mais alors justement, comprendre, donc vous entrez dans une famille, oui, pour comprendre, et qu'est-ce que ça apporte de plus que les statistiques? Quel est le facteur, quel est le résultat de l'enquête finalement, sur ce point très précis?
Sur ce point très précis, l'enquête qualitative ou ethnographique va permettre de comprendre un peu les médiations. Les médiations principales, je pense qu'il y a d'abord deux choses essentielles, c'est que pour les filles, je pense qu'il y a un biais et positif pour elles, c'est-à-dire à savoir qu'elles ont face à elles des institutrices qui sont des missionnaires, qui se vivent à l'époque encore pour les aînés comme des missionnaires. Elles sont passées par le moule de l'école normale. Elles veulent sauver les filles de milieux populaires et notamment immigrées. Et donc, il y a une attention extrêmement forte. Il y a une alchimie qui se crée entre ces filles.
Donc ça, c'est conjoncturel, finalement.
C'est pas conjoncturel, c'est structurel.
Il y a une date. Oui, mais il y a aussi, dans un moment donné de l'histoire de France.
Dans les années 70-80, ça existait.
Ça rencontre un projet politique.
Bien sûr, et je pense que ça existe dans certains quartiers encore aujourd'hui. Donc, c'est quand même bénéfique aux filles parce que elles se sentent énormément soutenu. Là, je pense que c'est très important de mettre l'accent sur le regard des enseignants sur ces élèves. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'une partie des enseignants, on leur dit même parfois à l'école, dans les écoles de formation, les enseignants UFM, SP, etc., on dit placez les élèves, attention aux bandes. Tout de suite, les enfants font peur. Tandis que là, tout de suite, il y a ce regard bienveillant. Donc, ça veut dire que les deux sœurs aînées, on a été soutenus par nos enseignants. Elles les voient encore. Et la deuxième raison, la deuxième explication majeure, c'est que les garçons n'étaient pas des mauvais élèves à l'école primaire. Les deux sur les trois n'étaient même plutôt des bons élèves. Même l'un d'entre eux est tellement bon élève en CM2 qu'il fait option allemand et latin.
Ah, les codes
sont là. C'est la sœur aînée. La deuxième sœur, elle est là qui a dit.
Il coche les cases à un moment donné.
Mais c'est lui qui va même pas avoir son BEP. Parce que justement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, collège de quartier. Arrive l'adolescence, et on sait très bien qu'il faut travailler davantage. Et donc là, on voit très bien, les parents, bien sûr, sont pas bien sûr, mais ce truc que ces parents-là sont beaucoup moins attentifs aux activités extrascolaires des garçons qui font ce qu'ils veulent, ils travaillent moins et ils sont pris dans la logique des garçons.
Mais alors Stéphane Beau, justement, ce qu'on retrouve dans votre description, c'est que il y a jamais un seul facteur finalement. Il y a plusieurs facteurs de socialisation et il y a l'école, mais il y a aussi la représentation des garçons dans le groupe social, dans la cour, dans la cité. Il y a la représentation politique justement des garçons. Ici, on retrouverait certainement une des explications qui vient à l'esprit aussi, c'est que les garçons des enfants d'immigrés, justement, à un moment donné, la politique les a décrits comme dangereux.
Finalement. Absolument.
A induit une sorte de facteur de peur, Stéphane Beau aussi, à leur égard. Et ces attentats sur lesquels vous concluez le livre n'ont pas arrangé les choses.
Alors, je vais revenir avant, Frédéric Worms, à la question avant les attentats. Je pense qu'effectivement, un facteur de déséquilibre, si on peut dire, aggravant pour les garçons, c'est qu'effectivement, ils sont confrontés plutôt, beaucoup plus, à la question du racisme, de la discrimination. Je donne un simple exemple qui m'avait beaucoup marqué. Le frère aîné, Rachid, qui était lui en difficulté scolaire. Donc il a quand même réussi à trouver à un moment des stages il avait trouvé un stage de serveur.
C'est très impressionnant ce que vous racontez, même dans sa vie amoureuse, il est différent des autres.
Absolument. Mais donc il n'avait, là aussi, il était compliqué à l'école, un enfant difficile, un enfant perturbé, mais qui se rattrape dès la sixième. Il travaille le matin à 6h du matin. Pendant 4 ans, il va travailler tous les matins à 6h du matin chez le boucher charcutier du coin, au marché.
Et le racisme alors et
le racisme, c'est que
dans cette...
non, c'est
dans
pas
ce parcours.
C'est pour montrer, c'est compliqué. Il n'y a pas que du racisme. Il y a ce boucher charcutier qui le prend à la bonne, ce petit arabe, comme il dit. Mais quand il arrive en 14-15 ans, il fait un stage de serveur dans un hôtel assez chic, restaurant du coin. Et là, à ce moment-là, au bout de 3 jours de ce stage, il est plutôt bien noté. Ça se passe plutôt bien. Mais la patronne lui dit gentiment, encore une fois, gentiment, les choses ne sont pas aussi jamais caricaturales. Écoute, Rachid, ça se passe très bien, mais franchement, ton prénom ça passe pas auprès de la clientèle, lundi je vais t'appeler Bernard.
Ah.
Donc là aussi on voit ce genre de choses, mettons-nous à la place d'un adolescent de 15-16 ans qui est en difficulté scolaire, qui trouve ce stage, tout se passe bien et tout d'un coup paf, on lui rappelle que Rachid c'est pas le bon prénom. Et je pense que ça, ce genre d'exemple, il y en a quasiment dans tous les entretiens avec des garçons d'origine maghrébine, vous aurez des choses comme ça. Ce qui fait que les filles, jamais un jour je demande à la fille aînée Samira cette question du racisme, mais est-ce que vous avez à un moment donné éprouvé, ressenti comme ça des formes de racisme à votre rencontre? Elle me dit non, franchement, jamais. La première fois où j'ai ressenti du racisme, j'avais 20 ans, j'étais en école d'infirmière, je descendais un patient au bloc et la chef infirmière m'a reproché, parce qu'elle essayait de rassurer ce patient, m'a reproché de parler trop fort en disant c'est toujours pareil avec vous, les Arabes. Mais elle avait 20 ans et donc elle avait le cul épais, si on peut dire.
Et alors après, vous montrez aussi, Stéphane Beau, l'irruption de la question du voile avec la dimension religieuse qui entre par la politique finalement et passe pas tellement par l'héritage familial. Dans la famille des Belloumi, finalement, le rapport à la religion ne semble pas important de façon interne, pas tant que ça, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai lu le livre, mais c'est renvoyé par la société française de telle sorte que c'est finalement la société, voire la politique française qui introduit la question religieuse dans
sa
famille.
Je dirais pas comme ça, Frédéric.
Alors, c'est peut-être une lecture
rapide, mais je dirais ça différemment.
Justement.
Je dirais que justement, on pourrait dire que les Belloumi, c'est des familles immigrées algériennes classiques, c'est-à-dire que les parents sont bien sûr musulmans, plus ou moins pratiquants, mais on pourrait dire que c'est pas l'obsession de leur vie, ils sont pratiquants.
Ils se définissent pas par rapport à
voilà.
Ça.
Ils font le ramadan, etc., mais ils n'affichent pas ça, et c'est, voilà. Et puis on est en France, on essaie de faire sa place, etc. La question religieuse va apparaître d'une part, évidemment, avec le vieillissement des parents, puisque M. Belloumi va faire le pèlerinage à la Mecque, il va devenir Hadj, Mme Belloumi en 2005.
Aussi voilà, existentielle.
Et voilà, en vieillissant, on se rapproche
de la
religion,
etc.
Et là où c'est pas tellement là, je pense que c'est lié au changement dans le quartier des modes d'encadrement religieux. Parce que là aussi, on sait très bien, les sociologues ont travaillé là-dessus, il y a un très beau livre de Samy.
Finalement, il y a la socialisation devient aussi religieuse.
Voilà, l'arrivée d'une nouvelle offre religieuse qui vient justement combattre l'islam dit traditionnel des parents. C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui, par des travaux de jeunes sociologues, qu'une partie de la religiosité des nouvelles générations d'immigrés se construit contre les parents. Un islam qui rase les murs, un islam
contre les parents, mais à défaut de l'école aussi.
Oui, à défaut de l'école. Mais non, ça peut être aussi avec l'école. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les filles, bon, les filles aînées, justement, elles ont grandi dans un moment où la question de la religion n'apparaissait pas. Donc, elles sont restées avec leurs pratiques, elles n'ont pas rejeter la religion fondamentalement, mais les sœurs cadettes qui ont grandi 15 ans plus tard se sont vues, voilà, ont vu cette question apparaître et donc elles ont dû faire avec. Donc dans le livre, je raconte en détail un repas de Ramadan qui se passe mal où on pourrait dire la religion est utilisée par une des sœurs cadettes contre la sœur aînée qui a toutes les vertus, qui est, voilà, ce que j'appelle dans le livre les icônes indéboulonnables de la famille. Et tout d'un coup, là, grâce à la religion, à la supposée moindre religiosité de la sœur aînée, la sœur cadette va pouvoir, ce jour-là, en tous les cas, dire son fait à
alors,
sa sœur.
Alors, ce livre est très intéressant aussi par ses dimensions historiques. C'est une histoire de France à travers la famille Belloumi. Mais quelle est votre position, Stéphane Beau, sur la marge de manœuvre individuelle? J'allais dire, c'est un livre aussi assez sartrien. Sartre disait, il y a la situation sociale et puis il y a la liberté. Et il disait, la liberté, c'est ce que nous faisons de ce que les autres ont fait de nous. Et donc, il y a le social, mais il y a aussi ce qu'on peut faire avec ce que les autres ont fait de nous. Et quelle marge, finalement, attribuez-vous aux individus eux-mêmes dans la différence là, entre les 8 enfants? Il y a ces déterminants, il y a le rapport fille-garçon, il y a les conditions historiques qui ont changé, mais aussi, ils sont des individus.
Et justement, tout le livre montre, il me semble qu'on doit essayer, quand on est sociologue, travailler sur le poids des déterminismes sociaux, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas absolus et que vont jouer une série de mécanismes permettant à certains individus qui étaient voués à reproduire la situation de leurs parents. Et donc, en fait, l'idée même de ce livre, c'est qu'en fait, c'est un livre sur la mobilité sociale ascendante d'un groupe, d'une famille qui n'aurait pas dû être là où elle est, mais ouais. Parce qu'il y a eu justement à chaque fois les petites fenêtres, les petites portes qui sont dans la série du Monde. Je ne serais pas arrivé là si. Je trouve que c'est une série absolument passionnante. Où dans cette série, notamment les articles d'Annick Cogent, on voit comment tout d'un coup des individus, quand André Dussolier dit dans ma petite famille de petits fonctionnaires de Haute-Savoie, dont je suis aussi originaire, tout d'un coup à 10 ans, je vais voir un spectacle de théâtre et tout d'un coup ma vie en est transformée parce que. Et donc c'est ça qui est intéressant.
Il y a des rencontres dans le social aussi. Dans le social, il y a de la rencontre.
Il y a des rencontres et qui sont liées. Et nous, on va jusqu'au bout. On va pas abdiquer notre rôle de sociologue. On va le montrer jusqu'au bout, mais on va montrer ce rôle des petits événements, des petites rencontres qui vont déjouer les grands déterminismes sociaux.
Mais alors à l'extrême inverse, disons de l'individu, là, quel est le rôle encore de la politique? Si vous deviez faire une politique de l'enfance, une politique des enfants, vous l'avez rencontré aussi bien dans le monde ouvrier que dans les enfants d'immigrés et dans la famille Belloumi elle-même. Quels sont les, quand même, de façon un tout petit peu normative, qu'est-ce qui serait une politique des enfants qui permettrait ces rencontres, justement, qui ne fermerait pas les portes?
Ben, je pense que c'est ça, c'est ouvrir les portes. C'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans les milieux populaires, notamment dans les cités, on sait très bien qu'il y a cet enfermement qui existe. Donc, il faut trouver un tas de, on voit comme des choses se faire.
Pour vous, la société française s'est repliée de plus en plus, là, dans ces dernières années.
C'est pas qu'elle s'est repliée, c'est qu'on constate objectivement qu'elle s'est une série de processus de ségrégation spatiale, sociale, ethniques qui font qu'effectivement c'est de plus en plus difficile de franchir les frontières, franchir le périphérique. C'est quand même quand on regarde tous les un tas de romans ou autres, on voit bien que les frontières se sont durcies. Et puis en même temps on est pris dans la lutte des places. Il faut aussi savoir que du côté des classes dominantes, la bagarre est aussi forte.
Vous diriez, Stéphane Beau, comme certains de vos collègues sociologues, qu'il y a maintenant des différences des mondes entre les enfants d'une même société ne sont plus les mêmes enfants.
Alors, je serais prudent, parce que là, je n'ai pas encore lu le livre de Bernard Lahire et son équipe.
Enfance de classe, auquel vous faites allusion, en effet.
Mais il pointe un processus qui est intéressant, mais il faudrait voir historiquement. Moi, je pense qu'il faut là vraiment travailler avec les historiens, voir qu'est-ce qui se passait il y a un siècle, les enfances d'ouvriers, les enfances de paysans. Quand on lit Navelle, par exemple, on s'aperçoit que le destin d'un enfant d'ouvrier, c'était quand même de travailler à 12-13 ans. C'est-à-dire que là, la grande différence, c'est l'école, quand même.
Et puis, l'avenir, je sais que vous voyez toujours les enfants Belloumi, certaines ou certains d'entre eux. Voilà, peut-être que les circonstances vont se réouvrir, Stéphane Beau.
Non, ce qui est très intéressant dans le suivi que je fais, comme ils ne sont pas devenus des amis, mais des gens proches, on se voit souvent, et les amis, c'est pas le bon terme, mais c'est des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, quoi, et qui sont aussi très très sympas. Mais ce qui est intéressant, c'est je rêverais d'une enquête sur leurs enfants. Parce que bien sûr, ça c'est important, parce qu'ils ont tous des enfants.
Ce seront vos enfants ou nos enfants qui la feront.
Peut-être.
Merci beaucoup Stéphane Beau.
Merci beaucoup Frédéric Worms.
Matière à penser, c'était notre quatrième rencontre autour des enfants, ce soir avec Stéphane Beau, avec et grâce aussi à Alain Joubert, Justine Vildé, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Lévigne, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous demain avec une juriste, Françoise Dequevert-Desfossés, pour parler du droit des enfants. À demain.